With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Farah est la maman de deux garçons dont le premier, Eden, est arrivé par surprise quand elle avait 23 ans. Une belle surprise. Elle est comblée par sa nouvelle vie de maman, mais s'inquiète de voir son bébé enchaîner les maladies, aussi banales soient-elles d'après les médecins. Les années passent, les rendez-vous médicaux se multiplient et l'errance médicale s'installe. Farah devient maman une deuxième fois, et cette fois-ci c'est un fort RGO qui vient ternir sa vie de famille. A priori, rien de trop inquiétant là aussi, de nombreux bébés en souffrent de nos jours. Mais les douleurs de son fils aîné ne diminuent pas, alors il va passer des examens plus poussés et le diagnostic tombe. Eden est atteint du syndrome de Sanfilippo, une maladie génétique incurable appelée aussi l'Alzheimer infantile, qui le condamne à une mort prématurée. Pour le couple, c'est le choc et un double coup de massue lorsqu'on leur annonce que leur deuxième petit garçon, Abel, est lui aussi condamné. Farah va perdre ses deux enfants, c'est sans appel. C'est surtout le début d'un long combat pour rassembler la somme d'argent qui pourrait mener à un essai clinique et sauver ses garçons. Car si l'État n'est pas décidé à investir pour cette maladie jugée trop rare, Farah, elle, est bien décidée à faire tout ce qu'elle pourra pour que Eden et Abel vivent. Bonne écoute.
Bonjour Farah.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Bah, de rien, c'est avec plaisir.
Alors toi, tu es la maman de deux petits garçons. Quel âge ils ont ?
Eden, il a 5 ans et demi et Abel, 1 an et demi.
Alors, on va revenir au tout début, avant que tu deviennes maman. Toi, quel regard tu avais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours voulu devenir mère ou c'est arrivé un petit peu par hasard ?
J'ai toujours voulu devenir mère et très tôt,
ouais.
J'ai voulu. Eden, je l'ai eu, j'avais 22-23 ans.
D'accord.
Donc, je l'ai eu plutôt jeune.
Ouais. Alors, comment est arrivé le sujet de la parentalité au sein de ton couple ? Ton chéri aussi voulait des enfants assez vite.
Alors Eden, c'était une surprise.
D'accord.
C'était pas prévu. Du coup, une très belle surprise.
Ouais, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ?
5-6 ans.
Oui, d'accord. Donc, ça faisait déjà un moment.
Oui.
Ok. Alors comment t'as pris cette nouvelle, toi, cette surprise ?
Eh ben, j'étais un peu sous le choc.
Ouais.
Mais tellement contente. Tellement contente que ça soit arrivé, la plus belle surprise.
Ouais. Tu faisais quoi, toi, à ce moment-là ? Tu étais à l'école ou tu avais déjà commencé ?
Non, je travaillais.
Ouais.
Je travaillais déjà, oui.
D'accord. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Très bien, j'ai profité à fond. Eden, il était un petit peu... Les médecins le trouvaient un petit peu petit, un peu trop petit par rapport à la courbe. Donc, j'ai été arrêtée... j'ai arrêté de travailler vers 4-5 mois.
Ah oui, d'accord.
Pour me reposer à fond. Et sinon, tout allait bien.
Ouais. Donc, tu étais alitée pendant la fin de ta grossesse ?
Pas vraiment alitée, mais repos. Un peu repos forcé.
Ah oui, d'accord. Ça va, tu l'as bien vécu
Au début, oui. Puis après, ça devient un peu long vers la fin.
Ouais.
Mais voilà, j'étais vraiment pas alitée, quoi. Fallait juste que je force pas trop. Donc. Grand repos.
Est-ce que tu avais fait un projet de naissance par rapport à ton accouchement ? Est-ce que tu voulais la péridurale, sans péridurale ? Tu n'avais pas trop réfléchi à tout ça ?
Non, 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 il était là, c'était déjà trop bien. J'ai suivi les cours d'accouchement, mais je savais que je voulais la péridurale, ça
ouais.
C'est sûr, mais je ne m'y étais pas plus penchée que ça, quoi.
Alors, comment s'est passé le jour J, le jour de l'accouchement ?
Eh ben, Vers 21h, j'ai commencé un peu à avoir mal au ventre, mais comme j'avais pas mal de contractions tout au long de la grossesse, j'avais un peu l'habitude d'y aller. Et donc, je me rappelle avoir dit à Tommy, bon, bah, je vais faire un petit tour aux urgences, hein, on va contrôler, puis à telle heure. Et puis, j'y suis allée, puis la sage-femme m'a dit, non, mais là, la poche a fissuré, donc vous pouvez pas repartir, en fait. Et donc, j'ai appelé Tommy et je lui ai dit, bon, bah, faut que tu viennes avec la valise. Ah, bah, il n'était pas prêt du tout. OK. Il croyait vraiment que j'allais revenir comme d'habitude. Et puis, donc, 21h, et j'ai accouché le lendemain à 14h30.
Ah oui, d'accord. Toute la nuit.
C'était un peu long.
Ouais.
Oui.
Et alors, cette rencontre, est-ce qu'il avait repris du poids d'ailleurs à la fin de la
Ah,
grossesse?
c'était une petite crevette.
Ouais.
C'était une petite crevette. Ouais, il faisait 2,7 kg. Il était tout maigre. C'était. Ouais, je m'en rappelle. C'était. Il était tout bleu, ouais, un petit alien, quoi. Trop beau.
Alors, comment s'est passée cette rencontre? Est-ce que toi, tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman?
Oui.
Ouais.
Oui. Alors, il était tellement maigre qu'au début, j'avais un petit peu d'appréhension pour le porter. Mais je veux dire, en 24 heures, c'était. C'est une évidence en fait, c'est automatique.
Ouais. Tu l'as allaité?
Oui.
Ouais, ça s'est bien passé.
Oui, il a bien pris. Alors par contre, j'ai pu allaiter qu'un mois et demi parce que j'avais pas beaucoup de lait. Donc le passage au biberon, il a été un peu compliqué. Ça lui a fait pas mal de coliques. Un peu la galère, mais sinon, tout allait bien.
Ouais. Et alors, comment se sont passées ces premières années en tant que maman?
C'est en fait Eden, on l'a appelé Eden parce que vraiment c'était notre paradis quoi, notre paradis sur Terre. C'était depuis qu'il était là, plus rien ne pouvait m'arriver.
Ouais.
C'était tout en fonction de lui, tous les projets que j'avais. Je me disais bon bah quand il aura 10 ans, faudra qu'il fasse ça, faudra qu'il aura ça. Donc je construisais ma vie par rapport à comment je voyais Eden grandir quoi. Comme toutes les mamans, je pense.
Et là, au niveau de la santé, tout allait bien pendant les premières années?
Ça allait bien jusqu'à c'est un an et demi. Et puis, vers un an et demi, il a commencé à avoir des douleurs au ventre. Ça a commencé par des selles très liquides. En fait, tous les un mois et demi, 2 mois à peu près, il avait des selles liquides et il se mettait à vomir. Donc, on allait voir les médecins, aux urgences. Souvent, ça finissait aux urgences. Puis, ils nous disaient toujours un peu la même chose. C'est une gastro, entérite, smecta, compagnie. 2 mois après, ça recommence. 2 mois et demi, 2 mois après, ça recommence. Et ça a duré un an et demi.
Ah oui.
Jusqu'à ce que j'en ai eu marre et que j'ai décidé d'aller sur Saint-Étienne, donc une autre ville, un hôpital, voir un gastro-entérologue. Qui m'a pris au sérieux et qui a fait en fait une radio, tout simplement. Et en fait, il s'avérait que ce n'était pas des gastro, c'est qu'il était tellement constipé qu'il était bouché du haut en bas et qu'en bas, il n'y avait que de l'eau qui pouvait sortir et qu'il était tellement plein en haut qu'il vomissait.
Eh oui, d'accord.
Donc pendant un an et demi, en fait, on lui a donné du Smecta alors qu'il ne fallait surtout pas faire ça.
Eh oui.
Et donc, bon, on a trouvé qu'il était constipé, on lui a donné des médicaments pour l'aider à évacuer, ça n'a pas trop marché. Il a fait tout un tas d'examens pour comprendre pourquoi il était aussi constipé. Sur Saint-Étienne, ils n'ont pas trouvé, malgré la biopsie, tout ce qu'ils ont fait. Je me suis dit qu'il fallait que je continue, donc je suis passée sur Lyon.
D'accord.
Et à Lyon, il a fallu une hospitalisation. Donc pendant une journée, pareil, il a refait tout un tas d'examens, etc., sauf plus poussé. Et 2 semaines après, on a eu le diagnostic.
D'accord, ok. Donc là, tu n'avais pas encore ton deuxième enfant à ce moment-là.
Si,
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 ah,
si,
d'accord.
si.
Ok, donc on va y revenir.
J'ai eu le deuxième enfant parce que, en fait, pendant cette bataille de 2 ans et demi, 3 ans, en fait, on nous disait qu'il n'y avait rien. Donc, nous, voilà, on s'inquiétait. Enfin, moi, je m'inquiétais parce que je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je veux dire, de voir un enfant souffrir. C'est pas normal. Donc j'ai essayé de chercher, mais j'étais loin de m'imaginer que le deuxième pouvait être atteint, quoi.
Donc toi, pendant tous ces mois, même ces années qui se passent, tu comprends pas ce qu'a ton enfant. Comment tu le vis, tout ça ?
C'est compliqué de voir son enfant souffrir et qu'en face, on nous dise que soit qu'il n'y a rien, soit on nous dit qu'ils ne savent pas. Moi, au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Je pensais pas forcément à quelque chose de grave, mais je m'étais dit bah, peut-être qu'il a un intestin qui est un peu déformé, un intestin qui est un peu retourné. Enfin, j'étais plus penchée sur la malformation, sur quelque chose comme ça. Et donc, voilà, je me disais, bon, bah, il faudra une opération, quelque chose pour que ça revienne. Il faut absolument qu'on trouve pour le guérir, en fait, ouais. Qu'il arrête de souffrir.
Les années passent, vous décidez de faire un petit deuxième. Là, c'est pas une grossesse surprise cette fois-ci ? Non ?
Non. Voilà, on veut agrandir la famille. Eden, c'est un enfant qui est ultra affectueux, vraiment, il déborde d'amour. Et on s'est dit, bon, bah, c'est le moment, il a besoin de donner un peu d'amour à un petit frère, une petite sœur. Donc on s'est lancé, c'était trop bien. Une belle grossesse, vraiment rien. Tout allait bien, Abel. Lui, il n'avait pas de problème de poids, aucun problème. Et puis l'accouchement s'est aussi bien passé. Mm-hmm. Tout était vraiment presque parfait, quoi.
Ouais. Et alors, est-ce que Eden, ça l'empêchait d'aller à l'école ou ça lui faisait rater
ses problèmes de ventre ?
Ouais.
Il y a des jours où, oui, quand il partait en... Alors moi, j'appelle ça des crises. Oui, pendant un ou deux jours, il pouvait pas aller à l'école parce qu'il est plié de douleur. Il pouvait pas se lever du toilette. Enfin.
Oui, d'accord. Mm. Donc là, t'es maman de deux. Donc il y en a un qui a ses maux de ventre. Comment Abel, lui, se porte pendant ses premiers mois ?
Alors Abel, lui, c'était un autre problème. Il a eu un RGO. Enfin, c'est un bébé RGO. Donc, pareil, c'était un peu la galère parce que je l'ai vu à la rentrée de la maternité. Je voyais qu'il était tout le temps en train de mâcher, comme s'il avait un chewing-gum. Il dormait pas beaucoup, il pleurait. Donc, j'ai alerté le pédiatre. Je lui ai dit qu'il y avait quelque chose. Bon, voilà, c'est normal, c'est un bébé. Sauf que plus ça allait, plus il pleurait, moins il dormait, et j'entendais l'eau remonter. Vraiment, quand il était en position allongée, j'entendais l'eau comme une fontaine tout le temps. Et il y a des nuits où il s'étouffait avec son. Ouais, ouais. Donc du coup, jusqu'à ses 4 mois, je l'ai fait dormir debout sur moi. Moi, j'étais en position assise contre le mur. Et je le faisais dormir debout. Il n'y a que comme ça qu'il dormait. Alors pareil, je disais au médecin qu'il avait un reflux. Et on me disait que c'était physiologique, que c'était normal, que ça passerait. Sauf que ça ne passait pas jusqu'à ses 5 mois où il a fait une œsophagite. Donc, il a été hospitalisé, mis sous Inexium. Et aujourd'hui, il a toujours son reflux. Moins quand même, moins grave, mais ça remonte toujours, ouais.
Ah oui, donc là, tu te retrouves avec deux bébés, enfin deux enfants qui ont chacun des soucis.
Un problème. Ouais. Un problème, mais des enfants, des problèmes que tout enfant peut avoir. Parce que c'est vrai que j'ai été sur un groupe de parents qui ont des enfants RGO. Et du coup, en fait, ils sont beaucoup. Enfin, je trouve que c'est limite la nouvelle maladie du siècle. Le reflux, c'est incroyable. Et toutes les mamans qui galèrent, c'est aussi incroyable. Donc oui, j'avais deux enfants qui avaient des problèmes, mais des problèmes que tout enfant pouvait avoir, quoi.
Et toi, tu continues à travailler à côté ?
Moi, j'étais en congé maternité et j'ai repris, en fait, j'ai repris un lundi en mars, début mars. Le lendemain, Abel se fait hospitaliser pour son œsophagite. Donc, je reprends un jour et puis je me remets en enfant malade.
Ouais.
Et 5 jours après, on reçoit le courrier d'Eden.
D'accord. Donc là, vous aviez poussé donc les analyses pour Eden. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit comme diagnostic ?
Bah, en gros, on reçoit un courrier avec le compte-rendu de tous les examens qu'il a fait. Donc la radio, l'échographie, tout était normal. Et puis, il y a une petite phrase, prélèvement d'urine. Présence des paranes sulfates dans les urines, maladie de Sanfilippo. Donc, on reçoit ça un samedi. On ne sait pas du tout ce que c'est. Je me rappelle même avoir dit à Tommy, enfin, ils ont trouvé ce qu'il avait. J'étais limite contente, hein. C'est ça qui est horrible. Ils vont pouvoir me le soigner. Et donc, bah, je prends Internet, je prends mon téléphone, tac, je tape maladie de San Filippo. Et là, voilà. C'est...
Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de San Filippo?
Alors, les premières phrases que j'ai lues, je me rappelle, sur Orphanet, c'est une maladie neurodégénérative rare et incurable qui va entraîner un déficit des acquis cognitifs et moteurs rapides et sévères, et le diagnostic vital est sombre. Non, le pronostic vital est sombre, le décès survient dans l'adolescence. Et là, enfin, je veux dire, pendant 3 ans et demi, on m'a dit, il n'y a rien, ça va passer, vous inquiétez pas. Je reçois un courrier, j'étais contente qu'il trouve ce qu'il avait. Et en fait, il a un truc qu'on ne pourra jamais guérir et qui va lui enlever la vie, quoi.
Et c'était quoi les... Bon, j'imagine que tu passes un week-end horrible, vous en parlez avec ton chéri.
Tommy, il était, il y croyait pas du tout, en fait, parce que pour lui, c'était, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé dans ses urines, mais parce qu'ils étaient obligés de le mettre, mais ça pouvait faire penser à une autre maladie. En fait, lui, tant que le médecin ne lui a pas dit, bah voilà, il a ça, pour lui, c'est un simple bout de papier, donc il était pas du tout, enfin vraiment, il y croyait pas du tout. Et moi, j'ai poussé un peu les recherches. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de similitudes, en fait. Il y avait beaucoup trop de symptômes. Et donc, j'ai contacté un médecin spécialiste dans le service métabolique, en fait, qui nous a pris en rendez-vous très rapidement, le lendemain, je crois, ou 2 jours après. Et puis, ben, quand on est arrivé, on a compris que c'était ça. On a compris parce que je me rappelle encore avoir été dans la salle d'attente. Avec Eden, le médecin on l'avait jamais vu et il s'est dirigé directement vers Eden en lui disant bonjour Eden. Donc on s'est dit mais comment elle peut savoir que c'est lui quoi. On l'a vu avec un classeur où c'était écrit son prénom et elle a demandé à Eden d'aller jouer dans la salle et qu'elle voulait nous parler. Donc bon là on a compris quoi.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit alors?
Eh ben, elle nous a fait le résumé de toute la vie d'Eden, depuis sa naissance à aujourd'hui, tous les symptômes qu'il avait eus, en fait. Alors, des choses, encore une fois, très classiques, hein. Nez qui coule tout le temps, rhino souvent, otite souvent. Il s'est fait opérer des amygdales, des végétations. Donc ça, c'est un prêt, je veux dire, c'est un petit symptôme que tous ces enfants ont. Les troubles du sommeil, un peu agité, mais encore, Eden, il n'était pas trop à ce moment-là. Voilà. Toutes ces petites choses, en fait, elle nous disait que c'était des signes de la maladie. Et donc, elle a fini par nous expliquer, en gros, ce qui allait après arriver. Elle nous a expliqué ce qui était la cause de cette maladie. Donc, elle nous a expliqué qu'en fait, il lui manquait une enzyme. Cette enzyme permet de laver le cerveau pour que les cellules se régénèrent. Et sauf que comme il lui en manque une, le cerveau ne se nettoie pas correctement et donc il y a une substance qui s'appelle donc cette éparane sulfate qui a été retrouvée dans ses urines qui vient tuer ses cellules et donc qui vient tuer petit à petit son corps, son cerveau, tout. Et elle a rebondi vraiment très rapidement en nous disant est-ce qu'il a des frères et sœurs? Donc on venait d'avoir Abel, oui, il a un petit frère, on était contents. Il va falloir le ramener à Lyon pour un test, parce qu'il peut être malade. Et là, enfin...
Double choc.
Ouais, enfin, c'est même pire qu'un choc, parce que Eden, je cherchais quelque chose. Alors certes, je pensais pas du tout à ça, mais voilà. Mais Abel, à part son RGO, Mais bon, après, voilà, elle a essayé un peu de nous rassurer en disant qu'il y avait seulement 1 chance sur 4 pour qu'il soit malade. Donc, on s'est dit, ok, peut-être qu'on va avoir une chance, mais en même temps... Il avait le nez qui coule, les otites. Je me suis dit, ça sent pas bon, quoi.
Ouais.
Et donc, on l'a ramené. Et puis, la semaine d'après, ben, rebelote, quoi.
Comment vous gérez cette deuxième nouvelle?
Tommy, entre-temps, il a fait un AVC.
Ah oui?
Ouais, parce que du coup, Quand on a reçu ce courrier, Tommy, comme je disais, il n'y a pas cru du tout. Hein. Il a été dans le déni et tout. Mais quand le médecin lui a dit en face, c'est ça, et ben, le lendemain, il a fait un AVC. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant une semaine. On n'avait pas encore le diagnostic d'Abel. Il est sorti et on a eu le diagnostic d'Abel le lendemain.
Oh là là, waouh.
Ça a été très compliqué.
Et toi? Alors toi, t'as ton chéri qui fait un AVC, tes deux enfants qui ont le même.
Bah moi, incroyable, mais enfin, je me dis, je me suis pas effondrée. Alors j'ai beaucoup pleuré, bien sûr, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas craqué. Alors jusqu'à quand ça va durer, je sais pas. Mais pour l'instant, je tiens le coup.
Ouais. Donc là, il vous annonce ces deux diagnostics. Quelles sont les étapes que vous devez faire?
En gros, donc c'est donc le syndrome de Sanfilippo. C'est une maladie qui est aussi appelée, surtout aux États-Unis, la maladie d'Alzheimer infantile, parce que c'est le même processus que l'Alzheimer. En fait, ils vont avoir donc des troubles du comportement, des troubles du sommeil. Ils vont ensuite perdre leurs acquis cognitifs, donc c'est-à-dire qu'ils vont oublier petit à petit tout ce qu'ils ont appris. Donc ça peut être quelque chose de bête, mais l'alphabet, au bout d'un moment, ils vont plus s'en souvenir. Enfin, toutes ces petites choses qu'ils ont apprises vont oublier jusqu'à ne plus savoir parler. Donc, ils vont perdre la parole. Ils vont plus être connectés au monde, en fait. Ils vont plus nous reconnaître, plus reconnaître l'entourage. Ils vont avoir des crises de démence, comme Alzheimer. Et puis, ça s'arrête pas là, parce qu'ils vont avoir des grosses crises d'épilepsie. Et finir handicapé physique pour décéder quoi avant l'âge adulte.
Ils t'ont donné une durée, enfin, pour toutes ces étapes. Ils savent à peu près dire quand est-ce que ça va arriver.
Non, enfin, chaque enfant est différent. Simplement, oui, on a une petite fourchette, quoi. On va dire que ils vont commencer à oublier vers peut-être 8-9 ans. Perdre la parole vers 10, 11 ans, 10 ans, les crises d'épilepsie peut-être vers 12 ans, et plus savoir marcher vers 15 ans peut-être. Mais après, voilà, c'est ça qui est aussi difficile, c'est qu'on ne sait pas. Et tous les jours, on se lève en disant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui en fait? C'est quand? Quand est-ce que ça va arriver? Donc c'est difficile.
Parce que là, quand vous apprenez tout ça, on vous dit qu'il y a des choses à faire pour peut-être ralentir ou vous avez d'autres examens à faire.
Pas du tout. On nous dit qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. C'est une maladie incurable. Que la seule chose qu'il faut faire, c'est profiter des enfants. Alors, il y a des traitements, ce qu'ils appellent symptomatiques. Par exemple, pour les troubles du sommeil, bah, vous pourrez avoir des somnifères. Pour les troubles du comportement, des antidépresseurs. Pour les crises d'épilepsie, bah, des traitements pour l'épilepsie. Mais c'est voilà, c'est symptomatique, mais rien ne ralentit la maladie.
D'accord.
Rien.
Comment tu vis avec tout ça, toi?
Moi, au début, on va dire que les premiers jours, j'étais un peu l'ombre de moi-même. Je comprenais pas en fait ce qui se passait. Enfin, je veux dire, je suis jeune. Enfin, on avait 27 ans. Enfin, vraiment, je comprenais pas. Donc, j'ai commencé un peu à chercher partout, sur les réseaux, voir les parents qui ont des enfants comme ça, les associations, toutes les recherches qui ont été faites, enfin tout. Et à un moment donné, en fait, je suis tombée sur un papa qui a deux enfants comme nous. Et il y a 10 ans, en fait, il a vécu la même chose que nous. Il a eu le diagnostic de ses deux enfants. Et donc lui, il y a 10 ans, il n'y avait vraiment rien. Il a décidé de se battre, donc il a créé son association, il a levé des fonds, il s'est allié avec plein d'autres associations dans le monde pour soulever des fonds et ça a permis en fait de trouver un traitement.
D'accord.
Donc ce fameux traitement pour lequel on se bat aussi aujourd'hui nous pour nos enfants, un traitement qui a été trouvé donc qui est actuellement porté par une biotech américaine, c'est de la thérapie génique. Donc c'est quelque chose qu'ils vont injecter dans le cerveau pour venir compenser le manque d'enzymes que je parlais, pour que le cerveau puisse retrouver le moyen de se nettoyer correctement, en fait.
D'accord.
Et donc, c'est ce papa qui m'a donné cette nouvelle incroyable. Et par contre, voilà, il m'a dit qu'il manquait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors moi, au début, je me rappelle quand tu m'as dit qu'il manquait beaucoup d'argent, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va vendre notre maison, on va vendre tout ce qu'on a, on va faire un crédit, enfin voilà, facile. Et quand j'ai su le montant, je me suis dit, bon, c'est pas ça, donc...
Combien il faut?
1,5
million. 1,5 million.
Je suis repartie dans un petit état dépressif, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est comme s'il n'y avait rien, je ne vais jamais avoir 1,5 million d'euros. Et après, je me suis dit, mais on est combien en France? 67 millions. Si jamais notre histoire, notre message passe partout en France, j'ai pas besoin d'autant. Et c'est comme ça que j'ai repris de la force et je me suis dit, OK, Tommy, on va se battre, on va récolter de l'argent et on va les soigner. Eux et tous les autres, parce que voilà, je le dis souvent, mais peut-être pas assez, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent partout dans le monde, il y en a qui sont décédés, et c'est injuste. C'est injuste parce qu'en fait, on nous dit que si aujourd'hui il n'y a pas de traitement, c'est pour une histoire d'argent, parce que c'est une maladie rare, et qu'en gros, c'est pas rentable. Et donc, on est dans ce combat-là.
Alors, comment il avance ce combat?
Alors, on a lancé notre combat, donc on a créé une page Facebook, page Instagram qui s'appelle Pour qu'Eden et Abel vivent, avec une cagnotte en ligne, et on a presque 600 000 euros en 5 mois.
Ouais.
Donc,
la moitié est faite déjà.
Presque la moitié.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'on y croit, et puis on est à fond, c'est notre seul espoir. C'est nous. Nous, en fait, on a commencé, on était presque tout seul. Quand on a eu ce diagnostic, on était, on savait pas ce qui nous arrivait. On était tous les deux face à rien, enfin face à tout et à rien. Et en fait, maintenant, on n'est plus tout seul, quoi. On a la communauté sans Filippo. Et enfin, depuis le début, on nous dit c'est une famille, mais en fait, oui, c'est on est, enfin, on s'entraide en fait dans tout ça. Et puis, il y a tous ceux qui nous aident à la récolte d'argent, surtout dans notre ville, on a beaucoup, beaucoup d'aide.
Ouais. T'as pu échanger avec d'autres parents qui vivaient la même chose ou qui avaient vécu la même chose et dont les enfants étaient décédés ou pas?
Oui, bah, ce papa, le papa que je vous parlais là, il a perdu son fils il y a quelques mois.
Ouais.
Donc, on le fait aussi en sa mémoire. Parce que son papa s'est battu, et sa maman aussi, parce qu'il n'y a pas que le papa, il y a la maman, ils sont battus pendant des années et on est encore plus en colère, quoi.
Il avait quel âge, l'enfant?
16 ans.
16 ans. Et d'autres parents donc, qui vivent la même chose que toi, que vous, est-ce que c'est génétique? Comment Oui, ouais, c'est génétique.
C'est génétique, en fait, on est porteur sain d'un gène. Mortel. Et donc, du coup, comme on est porteur sain, bah, on n'a aucune chance de savoir, en fait. On vit très bien. Et quand deux personnes se rencontrent avec ce même gène...
Oui, donc vous l'avez tous les deux.
Oui, oui, on l'a tous les deux. Donc déjà, d'être porteur sain de ce gène, c'est rare. De rencontrer une personne qui l'a, c'est aussi rare. Et quand on a une grossesse, il y a une chance sur quatre pour qu'il soit malade. Donc, en réalité, on avait plus de chances d'avoir un enfant... Enfin, des enfants pas malades, en fait. Et nous, on a eu les deux.
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, celles qui écoutent, par exemple, le podcast, pour aider
Pour nous aider d'en parler, de parler de notre histoire, de parler de tous ces enfants qui sont atteints de Sanfilippo. Alors, il y a beaucoup de maladies rares. On n'est pas si rare que ça, je pense. Enfin, parce que depuis qu'on a lancé le combat, il y a beaucoup de familles qui nous disent, bah, nous aussi, nos enfants, ils ont Sanfilippo. Donc, au final, on est peut-être même plus parce que c'est sous-diagnostiqué. Et comment nous aider? Bah, pour ceux qui peuvent faire un don, il n'y a pas de petit don. Chaque euro compte, chaque jour compte. Et de partager pour que cette maladie, en fait, qu'elle ne soit plus méconnue.
Alors, comment vont, là, aujourd'hui, tes deux petits garçons? Comment ça évolue pour eux?
Ils vont bien.
Ouais.
Ils vont bien. Eden est à l'école. Il va passer en CP. Et c'est ça qui est aussi incroyable, parce que quand on parle de maladies neurodégénératives, on se dit qu'il y a un problème au niveau de cognitif, quoi. Et aujourd'hui, Eden, on lui parle comme un enfant normal, quoi. On a des conversations, enfin, même il nous surprend de jour en jour parce qu'il dit des choses qui paraissent en fait banales pour d'autres parents, mais qui pour nous, à chaque fois, c'est une victoire de dire ah, il sait dire ça, il connaît toutes ses couleurs en anglais, il sait compter en anglais. Enfin, il est incroyable. Et c'est ça qui est dur, c'est de se dire qu'un jour, en fait, il va plus savoir, en fait. Mais bon, pour l'instant, on prend le bon, on parle tout le temps avec lui. On est tout le temps en train de le stimuler. Vraiment, on ne lâche pas. Ça peut même être un peu compliqué, mais c'est pour lui. Plus il va en intégrer dans la tête, et on se dit peut-être que ça ralentira un peu la dégénérescence. Je sais pas. Et Abel, bon, bah, c'est un bébé, donc on peut pas trop savoir pour l'instant, quoi.
Et vous en parlez avec Eden?
Pas du tout. Non, on parle pas. Eden ne sait pas. On n'a pas réussi à lui dire. Non, c'est compliqué.
Et vous êtes suivi par des psychologues pour vous, en tant que parent, surmonter cette épreuve?
Oui, on a une petite aide psychologique. Après, on est tellement pris par le combat que, en fait, on a pas le temps. On a du soutien. De ceux qui nous soutiennent par le combat nous soutiennent déjà psychologiquement. Donc, c'est pour l'instant, ça nous suffit.
Et au quotidien, toi, tu bosses toujours, tu travailles toujours, ou ce combat a pris le pas sur...
Alors, bah, quand on a su la nouvelle, on était en arrêt de travail, forcément. Moi, j'ai dû m'arrêter pendant 10 mois. Tommy, bah, avec son AVC aussi, il a eu s'arrêter 5-6 mois, je crois. Il a repris à temps plein, lui. Moi, j'ai repris à mi-temps. Parce que pour l'instant, franchement, ça suffit.
Ouais.
Alors, combien de temps, je sais pas. En fait, on vit au jour le jour, quoi. On sait pas trop comment ça va évoluer. Donc, pour l'instant, je profite de à fond.
Et comment tu vis le fait que, justement, leur possible guérison tienne qu'à l'argent, finalement?
Bah, en fait, on est encore plus en colère, quoi. On a l'impression de vivre que des injustices. Parce que quand on voit qu'il y a de l'argent qui se débloque pour tout et n'importe quoi ou pour des choses plus importantes, qu'on est capable d'envoyer des fusées sur la Lune ou quoi, qu'on demande juste à sauver des enfants. Alors, et puis quand on dit 1,5 million, beaucoup nous disent que c'est énorme. Mais en fait, c'est le prix d'un traitement classique. C'est juste que quand c'est payé par des laboratoires ou quoi, bah nous, c'est transparent. On va prendre nos médicaments, c'est pas tout ce qui s'est passé derrière. Sauf que là, comme personne ne veut investir, et ben, c'est à nous de trouver l'argent.
Est-ce que tu sais comment ce traitement devra être pris? Enfin, ça consiste en quoi, en fait,
Donc, c'est de la thérapie génique. Pour l'instant, c'est testé sur les animaux. Depuis plusieurs mois, c'est testé sur les animaux. Ça a très bons résultats. Donc, c'est pour ça qu'on y croit à fond, en fait. Je veux dire, si ça marche sur les animaux, pourquoi ça ne marcherait pas sur l'humain? Et donc, c'est de la thérapie génique. Donc, ils vont injecter directement dans le cerveau
ce
produit qu'ils ont trouvé.
Mais ça se fait en une fois ou c'est sur...
Ça se fait en une fois.
Oui, d'accord.
C'est une injection. Et après, bah, après pendant plusieurs années, ils vont être suivis, les enfants, pour voir comment ils prennent, enfin, pour voir si c'est bien toléré et comment, quel impact ça a eu du coup sur cette maladie.
Comment tu te prépares, toi? Est-ce que vous vous préparez d'ailleurs à ce qui va se passer ou vous profitez vraiment chaque jour
par rapport au traitement ou par rapport à la finalité de la maladie?
Les deux, finalement.
Les deux. Par rapport au traitement, ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, si on arrive au but de les faire intégrer cet essai clinique et de les soigner, c'est pas une petite opération. C'est quelque chose qui, moi, je me rappelle Eden le voir partir pour une opération des amygdales. J'ai cru que j'allais pas m'en remettre, hein.
Ouais.
Et que c'était juste les amygdales. Donc, oui, je pense à ça, mais pour l'instant, je pense que mon cerveau, il fait barrière pour étape par étape. Et puis, je me dis aussi que si vraiment on en arrive à là, c'est qu'on a tout gagné et qu'on a gagné notre combat et que c'est une fin, une futilité, façon de dire, quoi. Ça sera un mal pour un bien.
Mmh.
Et de comment va se passer la maladie, l'issue de la maladie, encore une fois, c'est compliqué. Enfin, Eden, je lui parle, c'est un enfant comme tout le monde, en fait. Donc, pareil, je pense que mon cerveau fait barrière, fait ce gros déni et se dit non, en fait, ça arrivera pas. C'est pas possible. On va essayer de le maintenir le plus longtemps possible pour qu'il ait ce traitement, ce fichu traitement, et que on espère y arriver. Et on espère y arriver aussi pour les autres, parce que encore une fois, il n'y a pas qu'Eden et Abel, il y a d'autres enfants, et on fera tout pour tous ces enfants.
Mmh. Est-ce que les parents, du coup, avec qui tu as échangé, ont pu t'expliquer comment eux, c'était à aller progresser pour leurs enfants?
Plus ou moins. Oui, après, c'est pas des choses qu'on... C'est compliqué à demander. Alors, oui, je
t'as peut-être pas envie de savoir aussi.
Si, ouais. Si, j'ai envie de savoir, justement. Alors, j'ai demandé déjà une maman qui a deux enfants aussi. Elle m'a dit, elle m'a répondu, avec plaisir, quoi, parce qu'encore une fois, on s'entraide. Mais en fait, c'est que tellement tous les enfants sont différents que je peux pas me baser que sur un enfant. Et en fait, si, c'est vrai que c'est des choses que j'aimerais savoir pour moi me projeter et savoir quand est-ce que ça va m'arriver. Mais au final, on sait pas si c'est vraiment comme eux. Donc, j'ai arrêté un peu de me mettre là-dessus et je profite de mes enfants aujourd'hui, quoi.
Et alors, est-ce que tu as l'impression de profiter du coup deux fois plus, trois fois plus, dix fois plus
Alors, je les aime dix fois plus. Déjà, je les aimais, c'était trop, mais là, quand on sait qu'on a, quand on a un enfant et qu'on sait qu'il va partir, on les aime, mais tous les parents aiment leurs enfants. Mais là, il y a plus aucune barrière, il y a plus aucune limite, il y a plus rien, quoi. Donc, c'est l'amour, quoi, qui gagne tout. Hein.
Oui. Est-ce que vous faites deux fois plus de choses avec eux?
Alors, on va dire qu'on est dans le combat, on est vraiment très très pris. Et donc, c'est vrai que des fois, on se dit, punaise, on profite peut-être pas assez des enfants, mais en même temps, on le fait pour eux. Donc, voilà. Mais si, on leur offre tout. Enfin, je veux dire, c'est même Eden en joue, parce que. On lui fait tellement de cadeaux, en fait, que à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, alors, il est où mon cadeau? On va se calmer. Mais du coup, voilà, et c'est vrai qu'on leur offre tout ce qu'on peut, en fait. Voilà, quand on a su le diagnostic, Eden, ça faisait un moment qu'il voulait aller à Disney, et on se disait toujours, bah, t'es trop petit, on a le temps, on a le temps. Et quand on a su le diagnostic, on s'est dit, mais on n'a plus le temps, en fait, on y va, on y retourne dans deux semaines. Enfin, c'est. On essaye de les faire rêver autant qu'ils peuvent, quoi.
Et vous avez de la famille autour de vous,
oui,
du soutien, ouais.
Ouais, on a de la famille qui heureusement sont là.
Et comment va Tommy du coup depuis qu'il a eu son AVC? Est-ce que...
Bah, ça va. Hein. Après, c'est toujours pareil. Quand on se compare à ce que nos enfants ont, on relativise pour tout, quoi. Donc oui, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'anodin de faire un AVC à 27 ans. Mais on se dit toujours que nos enfants, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. On se rend compte qu'on se plaint vraiment pour pas grand-chose. Dans la vie, avant d'avoir ce diagnostic, voilà, c'est comme tout le monde. On n'est jamais content, jamais satisfait. Et en fait, à partir du moment où on a des enfants en bonne santé, en fait, on a tout et on ne se rend pas compte.
Et comment est leur fraternité à tous les deux?
Amour, plus, plus, plus.
Ouais.
Mais encore une fois, Eden, quand il aime, et ça, c'est depuis très petit, il aime, mais c'est trop des fois. Quand il veut faire un câlin, il y met toutes ses forces. Et donc, du coup, avec son frère, il fait pareil, sauf que c'est un bébé et qu'il ne comprend pas. Et donc, Abel, c'est de la chamaille. Bisous, Bisous, tarte. Bisous, voilà. C'est... Mais c'est... Et puis, quand Abel n'est pas là, Eden réclame Abel. Abel, dès qu'il se réveille, il cherche son frère. Enfin, c'est ça qui est aussi difficile. C'est de se dire aussi, dans quelques années, ils n'auront plus ça, quoi. Ils n'auront plus ce lien d'amour. C'est...
Je crois qu'ils ont cet amour décuplé aussi. Tu penses qu'ils...
Ah ouais.
Ouais.
Mais j'ai vu beaucoup de témoignages sur les enfants sans Filippo et j'ai l'impression qu'en fait c'est un trait commun, cet amour qu'ils aiment vraiment, enfin multiplié par 10, et qu'ils n'ont pas forcément la bonne façon de le dire ou de le faire comprendre. Mais oui, ils ont beaucoup d'amour, c'est des êtres purs, vraiment, jamais ils pensent au mal. Ils se font du souci, enfin Eden il se fait du souci pour les autres,
ouais.
Mais on se cogne le pied, il entend aïe de l'autre côté de la maison, qu'est-ce qu'il y a maman, ça va, ça va. Enfin vraiment c'est des êtres purs, quoi.
Et du coup tu disais que vous lui en aviez pas parlé pour le moment, est-ce que c'est quelque chose que vous ferez ou finalement
Alors le problème c'est que en fait on voulait pas du tout lui en parler.
Ouais.
Le problème c'est que avec le combat qu'on mène, il y a de la médiatisation qui se fait et on n'est pas dans une grande ville, tout le monde se connaît et que là les enfants en fait de son âge commencent à entendre parler en fait.
Mmh.
Et donc ça parle à l'école, ça commence à parler au centre social et ça nous inquiète vraiment vraiment beaucoup parce que
qu'est-ce qu'on lui a dit?
Je sais pas ce qu'on lui a dit, mais par exemple, la semaine dernière, Eden est rentré en disant « Maman, je suis pas malade, j'ai pas de maladie. » Alors, comme il a des problèmes au ventre, je lui ai dit « Bah, tu sais, t'as un bobo au ventre. » Et il s'est vraiment mis dans un état d'angoisse extrême, quoi. « Non, non, je suis pas malade, non, j'ai pas de maladie. » Donc, j'ai dit « Bon, d'accord, t'as pas de maladie. » Et c'est compliqué parce qu'il rentre en CP en septembre et qu'il va être avec des grands et qu'on peut pas filtrer tout ce que les enfants se disent. Et encore une fois, c'est que des enfants, donc ils savent pas comment... Je pense qu'ils ont pas de filtre entre eux. On a peur. Enfin, vraiment, c'est un sujet vraiment compliqué.
Ouais. Vous êtes renseigné auprès d'un pédopsie pour savoir comment faire?
Oui, au tout début, quand on a eu le diagnostic, il y a un pédopsychiatre qui nous avait dit, on a trouvé le pourquoi tu avais mal, pourquoi tu étais malade, et on va essayer de te soigner, sans parler de ce qu'il a, mais en disant, en mettant sur le dos du ventre encore. Et au début, on a dit non, on ne veut même pas lui parler de ça. Et là, on commence et il se braque. Donc, je pense que ça va être un travail petit à petit, lui reparler, lui dire, bah, tu sais, t'as... pourtant, il prend des médicaments hein, pour le ventre. Il prend des laxatifs de temps en temps quand il est un peu constipé, mais il ne pose pas trop de questions.
Oui. Alors, et toi, qu'est-ce que ça a changé chez toi, toute cette expérience, toute cette maternité différente?
J'ai l'impression d'avoir... pris 20 ans. Enfin, je veux dire, j'avais 27 ans, j'étais moi-même encore un bébé, quoi. Je venais de commencer ma vie. Ma vie venait de commencer et j'ai l'impression qu'elle s'est finie, quoi.
Ouais.
Donc, je sais plus. Après, maintenant, je vis plus pour moi, quoi. J'ai plus aucun projet pour moi. Je pense plus à moi. Je pense qu'il y a eu, en fait, tout le temps. Tout le temps, tout ce que je fais, c'est pour eux.
Est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir à toi et ta famille?
Ah bah, la seule chose qu'on peut nous souhaiter, c'est la santé. Donc, c'est qu'on arrive à ce combat, qu'on arrive à soulever assez de fonds pour débloquer ce traitement, pour qu'il puisse être intégré à cet essai clinique et que ça puisse profiter à toutes les générations aussi à venir. Que quand un médecin annoncera à un parent que leurs enfants est atteint du syndrome de Sanfilippo, qu'il ne leur dira pas qu'il n'y a rien à faire et qu'il y a juste besoin de, enfin, il y a juste à les regarder mourir petit à petit, qu'il y a un traitement et qu'ils peuvent les soigner, en fait. Parce que c'est terrible d'annoncer à un parent que leurs enfants sont gravement, gravement malades mais qu'en plus de ça, il n'y a rien à faire. Et je pense que c'est la pire des choses pour un parent, c'est d'être impuissant, en fait. Ouais. Impuissant et de rien pouvoir faire.
Le traitement, il est aux États-Unis, hein, c'est bien ça?
C'est porté par une biotech aux États-Unis et l'essai clinique se fera là-bas, oui.
Vous avez eu des contacts sur place là-bas ou pas encore?
Alors, on a été en lien un peu avec une fondation qui œuvre aussi pour le syndrome de Sanfilippo. Et après, nous, on est soutenus par notre médecin et par une association nationale VML en France qui fait le lien, en fait, entre les États-Unis et eux d'un point de vue médical.
D'accord. OK. Parce que concrètement, demain, vous obtenez les 1 500 000 euros. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, en fait, la collecte de fonds, elle était en deux phases. Il fallait donc en tout 1,5 million. Il fallait dans un premier temps 500 000 euros pour financer ce qu'on appelle l'histoire naturelle. Donc, c'est une phase pré-essai clinique, c'est-à-dire que pendant 2 ans, tous les enfants français atteints du syndrome de Sanfilippo type C vont passer toute une batterie d'examens pendant 2 ans pour voir en fait comment la maladie va évoluer.
D'accord.
Et ensuite, ça débouche sur cet essai clinique. Donc, 500 000 pour l'histoire naturelle et 1 million pour l'essai clinique.
D'accord. Donc là, les 500 000 sont déjà partis pour l'histoire naturelle?
On a la première phase. Donc, c'est-à-dire que l'histoire naturelle va commencer comme elle était prévue en été, dans cet été. C'est vrai qu'on avait peur, en fait, de pas avoir les 500 000 à temps parce que tant que l'histoire naturelle n'est pas commencée, en fait, ça repousse à chaque fois l'essai clinique. Donc, on avait peur que ça repousse. Et comme on sait que le temps est compté pour nous et pour nos enfants, eh ben, on avait peur. Et là, c'est un gros soulagement d'avoir ces 500 000 et de se dire, OK, ça va commencer en temps et en heure.
Génial.
Et on continue le combat pour le reste, quoi.
Bravo. Super. C'est une super nouvelle. Mm. Donc là, ça va démarrer cet été et ça va durer pendant 2 ans.
L'histoire naturelle, oui.
Ouais.
Et sur combien... Ça va durer pendant 2 ans.
Sur combien d'enfants, vous savez ou...
Alors après, nous, on sait que les enfants sans Sanfilippo type C en France, ils sont à peu près une vingtaine. Et ça va être au bon vouloir des parents, en fait.
Oui.
Parce qu'il y a peut-être des parents qui ne veulent pas. Ça, nous on ne sait pas. Il n'y a que les médecins qui le savent pour l'instant. Donc,
D'accord. Donc ça va se passer en France.
Ça va se passer en France, oui, à Lyon.
Ah oui, d'accord. Super, bon, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc là, oui. Il reste en fait 900 000 euros à débloquer, à récolter pour la suite.
Oui. Pour la suite.
Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais faire passer à tous ces parents qui ont des enfants avec une maladie rare, qui découvrent comme toi tout ça et qu'est-ce que toi ça t'a appris
J'ai envie de leur dire de profiter à fond de leurs enfants et de pour ceux qui peuvent se battre parce que en fait on a compris que si c'était pas aux parents de se battre pour trouver un traitement, personne ne le fera et donc jamais aucun traitement ne sera trouvé. Donc pour ceux qui peuvent, parce que c'est franchement pas facile, ça demande beaucoup d'énergie et physiquement et moralement c'est dur, mais c'est de se battre pour ceux qui peuvent, encore une fois, d'essayer de trouver un traitement pour que nos enfants arrêtent de souffrir, en fait, peu importe quelle maladie rare, parce qu'on dit que nos enfants sont rares, mais si on calcule toutes les maladies rares qui existent, ils sont beaucoup trop. Et quand bien même ils ne sont pas assez, c'est, je veux dire, la vie d'un enfant ne devrait pas être une question de rentabilité. C'est pas possible, c'est pas... Enfin, encore une fois, on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais de l'argent, il y en a beaucoup parce qu'on injecte des milliards pour envoyer des humains sur Mars ou sur la Lune. Il faut qu'ils résolvent les problèmes qu'on a d'abord sur Terre parce qu'il y a des enfants qui meurent de maladies incurables. En 2022, il y a des enfants qui meurent de faim, qui meurent de guerre. Il y a de l'argent. Il faut qu'ils règlent le problème de nous sur Terre avant d'aller voir ailleurs, quoi. Enfin, ça paraît bête, mais je me dis que... Enfin, voilà, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent alors qu'il y en a.
Qu'est-ce que te disent tous ceux qui vous soutiennent? Quels sont les messages qui vous apportent pour vous porter un peu chaque jour?
Eh ben, beaucoup nous disent qu'on est très courageux. Et c'est pas du tout du courage. C'est les enfants qui sont courageux parce que nous, on va très bien. Et en fait, on le fait sans même y réfléchir, quoi. On est porté par l'adrénaline et c'est vrai que beaucoup nous disent qu'on est courageux. Et non, les héros, c'est pas nous.
Vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde qui vous soutienne comme ça, qui...
On espérait du fond du cœur, mais on se disait que c'était compliqué. Ouais. Voilà, on a tout fait avant de se lancer, on a tout préparé, enfin vraiment, pour que ce soit vraiment quelque chose de solide, etc. Et ça a pris une ampleur qu'on... J'avoue qu'on n'a pas compris, mais on est encore un peu loin du but, quand même. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça s'essouffle. Il faut qu'on continue. Il y a des jours vraiment compliqués où on est fatigué, où on a envie de lâcher. Et puis, vite, on reprend nos esprits. On se dit non, on a fait presque la moitié. On continue, quoi.
Parce qu'il y a un délai entre... est-ce que l'essai clinique doit se passer juste après? Donc, il reste que 2 ans, en fait, pour récolter le reste de l'argent.
C'est ça. C'est ça. On a 2 ans. Après, très franchement, on espère les avoir avant. Oui. Parce que nous, déjà, on puisse souffler. Parce qu'on se dit 2 ans de bataille encore, ça va être compliqué. Donc, on espère du fond du cœur réussir à avoir la somme avant. Et aussi, je pense, d'un point de vue médical, etc., qu'ils aient l'argent et qu'ils puissent finaliser, je pense, tout ce qu'il y a à faire. Après, je ne veux pas m'avancer d'un point de vue médical parce que nous, ça nous dépasse tout ça. Mais je pense que plus vite on a l'argent, enfin c'est même certain, plus vite on a l'argent et mieux ce sera.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm-hmm. C'est quoi pour toi être une maman rouennaise ?
À Rouen, on a une bonne qualité de vie en tant que parent parce que ce n'est pas une grosse ville. C'est pas trop petit non plus, il y a tout ce qu'il faut. Niveau pratique, niveau accessibilité, niveau prix, tout. Enfin, on est bien. On est à une jolie ville.
Quel est ton endroit kids friendly où t'aimes bien aller avec tes enfants à Rouen?
Alors, c'est pas moi qui aime bien, c'est plutôt Eden.
Ouais.
Il aime bien le Doudou Park. C'est son truc. On y était hier encore. Encore une fois, je ne vis plus pour moi, c'est plus pour eux. Donc, Eden, c'est son doudou parc.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille?
J'ai aucun projet pour moi, vraiment aucun. Et en famille, c'est de profiter de nos enfants et de les faire profiter. Donc, cet été, on aimerait bien partir en vacances. Des choses toutes simples, toutes banales, que ça paraît banal pour beaucoup, mais nous, c'est des souvenirs, en fait. On se fait des souvenirs. Donc, on les prend tout le temps en photo, on ne s'arrête jamais. À chaque fois qu'ils font quelque chose, on les prend en photo. Donc là, les vacances, ça va être des milliers de photos.
Merci beaucoup, Farah.
Bah, de rien, merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.